Kiosque international. Olivier Dallage.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Kiosque International, le club des correspondants étrangers à Paris qui passe la France à la loupe et qui la raconte à leurs lecteurs, leurs téléspectateurs ou leurs auditeurs. Kiosque International, une émission que vous pouvez aussi écouter sur notre site internet www.rfi.fr, en direct ou plus tard, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, nos invités sont Emmanuel Crane, correspondante à Paris de SBS Radio, une chaîne multiculturelle australienne. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à vous.
Vous nous parlez un petit peu de votre station ?
Oui, alors SBS est une chaîne multiculturelle, chaîne d'État australienne qui a été mise en place dans les années 60 et nous diffusons en 68 langues, dont le français.
Et on peut dire que vous êtes vous-même interculturel ou multiculturel, hein, puisque vous possédez trois citoyennetés, américaine, australienne et française, et vous avez vécu un petit peu partout sur la planète.
Partout sur la planète, c'est un peu beaucoup, mais j'ai pas mal voyagé en effet, oui.
Alors notre seconde invitée est Susan Sachs, correspondante à Paris du Globe and Mail. C'est le principal journal canadien de langue anglaise, il est basé à Toronto. Bonjour Susan.
Bonjour.
Vous nous parlez, vous aussi, de votre journal ?
Bon, c'est comme vous avez dit, c'est le journal quotidien le plus influentiel du Canada. Assez bien implanté un peu partout dans le monde. On a des correspondants aussi à Londres, et en Afghanistan, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient.
Et vous avez collaboré à d'autres publications américaines. Ici à Paris, où vous vivez depuis à peu près 4 ans et demi, 5 ans, vous donnez des cours de journalisme.
Kiosque international.
Direction à présent Los Angeles. Johnny Hallyday est toujours plongé dans un coma artificiel pour lui éviter de souffrir.
Nous reviendrons sur l'état de santé de Johnny Hallyday, qui est toujours hospitalisé à Los Angeles, et cela alors qu'une polémique est en train de naître. Elle concerne l'opération du dos qu'a subi le chanteur en France. Ses proches n'hésitant pas à mettre en cause le chirurgien qui l'a opéré.
Comment va Johnny Hallyday ? Nous recevons ce soir son ami et producteur qui met clairement en cause le chirurgien français qui l'a opéré le 26 novembre dernier. Voici Jean-Claude Camus.
De ce qu'on me dit à Los Angeles, les médecins américains seraient outrés de ce qu'ils auraient trouvé.
Vous avez parlé de massacre. Hein,
C'est ce qu'on m'a dit à Los Angeles. Maintenant, je vous dis, j'ai vu ni le malade ni les médecins.
Donc là, il s'agit du professeur Delajoux, donc qui a opéré Johnny le 26 novembre dernier, je crois, c'est voilà. Ça.
Mais est-ce que vous avez essayé de le mettre en garde quand même ? Parce que effectivement, la réputation de ce médecin des stars est assez sulfureuse. Il a.
Oui, mais vous savez, Johnny Hallyday, quand il décide de quelque chose, vous pouvez le mettre en garde. Il n'écoute personne, c'est lui qui décide.
Hello, I'm Jan van der Maat, and welcome to this edition of Focus on France. That's one of the many songs of veteran French rock star Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, whose real name is Jean-Philippe Smet, is a huge star in France, but relatively unknown in other countries.
Hablamos de Johnny Hallyday, la superestrella del rock francés, que desde hace más de 40 años apasiona al público con sus discos y sus conciertos.
Inconnu aux États-Unis, l'Elvis français, comme l'appelle ce blog, attire maintenant l'attention d'une certaine presse people. Et devant sa maison d'un quartier chic de Los Angeles, les patrouilles de sécurité ont mis à ses voisins la puce à l'oreille.
You know, even though he lives here, he's...
Ici, c'est un anonyme, il est connu comme un gars du quartier. Mais pour moi, Johnny, c'est beaucoup plus que ça.
Et pourquoi ?
Parce que j'adore sa musique, je l'ai connu quand je vivais à Paris.
Après 7 jours passés dans un coma artificiel dans cet hôpital de Los Angeles, le chanteur est enfin conscient. Hier, il a même prononcé quelques mots.
J'ai vu Johnny tout à l'heure, il venait de se réveiller, il a pris des couleurs. Je crois que la première chose qu'il a dit à Laetitia, ça j'étais pas là, mais c'est ce qu'on a répété, il a dit « bon, on s'en va maintenant ».
Bien sûr, je me suis tenu informé de son état de santé. J'ai eu son fils David, que je connais bien, qui est un de mes amis. Et je suis sûr que tous les Français seront d'accord pour lui former des vœux de prompt rétablissement pour lui. Et puis on lui fait confiance. Il a de la ressource, il l'a montré.
Malgré les nouvelles plutôt rassurantes, personne ne sait ici quand Johnny Hallyday pourra sortir de l'hôpital, ni même s'il pourra un jour remonter sur scène.
Je n'ai plus rien à prouver, tout peut s'oublier. C'est pas la
Vous avez entendu les voix de David Pujadas et d'autres présentateurs de télévision, Jean-Claude Camus, Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Nicolas Sarkozy. Premier débat donc sur lequel nous allons débattre. La France suspendue au bulletin de santé de Johnny Hallyday, hospitalisé à Los Angeles aux États-Unis. Depuis une semaine, pratiquement pas un bulletin d'information, que ce soit à la radio ou à la télévision, qui ne s'ouvre avec un direct avec Los Angeles, où l'on guette les confidences de la famille, des amis, comme ceux qu'on vient d'entendre, et puis il y en a encore beaucoup d'autres. Suzanne Sachs, ça vous étonne ?
Pas du tout, pas du tout. Je trouve tout ça un très joli feuilleton. On a tous les éléments. On a le rockstar qui prépare sa dernière tournée. On a la jolie femme. On a la chirurgienne assez soignée, débonnaire, qui a un passé. Et aussi une promesse des batailles judiciaires. Alors c'est tout à fait une très bonne histoire. Pour les médias. Et les médias, bon, c'est entre Johnny Hallyday et les médias, c'est une dépendance mutuelle depuis des années, alors ça ne m'étonne pas.
Et Mme Le Crène, vous partagez ce point de vue ?
Oui, enfin moi je suis quand même surprise, fascinée de voir l'amour que la France porte à Johnny Hallyday. C'est vrai, dans votre reportage, on dit qu'il n'est pas peu ou pas connu à l'étranger. En Australie, on ne le connaît pas. On connaît plutôt les autres intervenants, donc Charles Aznavour. Il attire autant les jeunes que les plus anciens, que toutes les générations. Et on voit vraiment un phénomène national extraordinaire. Également, moi, je fais des formations en interculturel et il me faut des symboles français. Et quand je cherche un artiste français qui soit connu, qui représente la France, Johnny Hallyday en fait partie. Et pourtant, tout ce qui se rapproche à la culture américaine, qu'elle l'a intégré, et pourtant il reste plus français que les autres.
Suzanne Sachs, est-ce que votre journal vous a demandé quelque chose sur Johnny Hallyday ?
On m'a demandé simplement un article sur la réaction, sur la réponse, sur le...
Donc c'est un article sur la France plus que...
Oui, sur la France, et parce que bon, ce qu'on s'intéresse au Canada et ailleurs, c'est les histoires, les articles qui montrent quelque chose sur la culture, la société française. Alors, cette couverture complète, ça fait partie de ces sujets.
Emmanuel Crane, vous avez aussi envoyé des sujets sur Johnny Hallyday ?
Alors, SBS, comme je l'ai dit, donc c'est 68 langues. Pour le programme qui est en anglais, qui s'appelle Worldview, non, ça n'intéressera pas beaucoup le public australien. Mais par contre, pour la section francophone, oui, là, ça intéresse. La section francophone s'occupe de tout ce qui touche à la France, à Maurice, à des pays africains, etc. Donc là, oui. Là,
en ces temps de débat sur l'identité nationale, il incarne la chanson française, il est né belge, il vit en Suisse et il a un nom américain.
Oui, mais il reste quand même très français. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup critiqué de vouloir fuir les impôts et de s'installer en Suisse. Mais encore une fois, personne ne lui en veut de représenter le rock, les emblèmes américains. Et puis, je trouve qu'en général, la chanson française de rock n'est pas connue à l'étranger. C'est pas ça qu'on recherche. Hein, on parlait d'Aznavour tout à l'heure, Mireille Mathieu, c'est plutôt le style que recherchait à l'étranger. Et au niveau des films, je dirais, c'est un peu comme Amélie Poulain qui représente vraiment le symbole français.
Les Français, leur identité, leur exception culturelle, est-ce que cet attachement à des valeurs sûres du showbiz, c'est pas aussi l'inquiétude des Français de ne pas avoir de grandes stars internationales comme ils ont pu en avoir dans le passé ?
Bon, avec mes neveux, mes nièces qui sont français, ils sont allés voir Johnny Hallyday, pas pour la musique, mais comme c'était une pièce, une partie de leur histoire, un peu le phénomène et pas le musicien lui-même. Mais je crois que maintenant, avec le monde de musique globalisé, pour les jeunes, c'est pas une grande importance d'avoir une star globale qui est tout à fait français.
Emmanuel Crane, c'est une époque qui se termine ?
Moi, je pense. Je pense que c'est important d'avoir comme ça des héros qui sont connus à l'étranger, et c'est ce qui fait qu'on connaît la France, qu'on parle d'elle, et c'est un peu la fin d'une époque, je pense.
Le bleu, ça veut dire que je t'aime. Thank you.
écrire par courriel kiosque.international@rfi.fr.
Et c'est la suite de Kiosque International avec la décision annoncée lundi par Nicolas Sarkozy de lancer un grand emprunt de 35 milliards d'euros. Vous allez entendre successivement Nicolas Sarkozy et Stéphane Tassel.
Nous avons donc décidé de mobiliser 35 milliards d'euros qui seront exclusivement consacrés aux priorités d'avenir. Ce sont 60 milliards d'investissements publics et privés que nous allons déclencher dans 5 domaines prioritaires. Enseignement supérieur et formation, recherche, industrie et PME, numérique et enfin développement durable.
On reste dans une logique de mise en concurrence, de sélection de certains projets, de focalisation de moyens sur quelques campus. Or, c'est bien là le souci. La question, c'est qui va choisir ? Dans quel cadre ? Sur quels critères ? Tel ou tel pôle va être privilégié ? Il n'y a pas eu de débat liminaire, il n'y a pas de transparence. À focaliser des moyens sur quelques campus, on est en train de creuser les inégalités entre universités. On est dans une logique de mise en concurrence des établissements les uns avec les autres.
Et donc on vient d'entendre Nicolas Sarkozy et Stéphane Tassel, qui est le secrétaire général du SNESUP, le syndicat des enseignants du supérieur. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Crane, correspondante à Paris de SBS Radio, une chaîne multiculturelle australienne, et de Susan Sachs, correspondante à Paris du journal canadien Globe and Mail. Cet emprunt de 35 milliards, c'est beaucoup 35 milliards, mais c'est pas aussi grand que ce qui avait été annoncé à l'origine, Emmanuel Crane.
Oui, c'est vrai, mais cependant, c'est vrai que c'est surprenant avec déjà la dette que la France traîne derrière elle. Ce n'est fait que rajouter. Alors c'est vrai que d'un point de vue australien, où nous n'avions plus de dette en 2005, hein, nous avions un surplus, ça fait lourd, même si c'est que 35 milliards.
Et pourtant, Suzanne, le président de la République avait pris la précaution de nommer deux anciens premiers ministres, un de gauche, un de droite, pour conduire une mission, pour proposer cet emprunt, pour bâtir un consensus.
Oui, parce que bon, même si la France a une grande et longue histoire d'endettement, je crois que bon, ça fait partie de l'approche de M. Sarkozy de se couvrir un peu avec les gens de gauche et de droite pour présenter ces programmes comme c'était tout à fait national et solidaire.
Alors, on a beaucoup dit, tous les pays, enfin beaucoup sont très endettés. La France est très endettée, ça n'est pas le plus endetté, mais elle a beaucoup de dettes. Mais en revanche, les autres pays européens n'ont pas lancé de grands emprunts. C'est une tradition française, ces grands emprunts pour redémarrer, moderniser la France, Emmanuel Crane.
Oui, on dirait, hein, jusqu'où ça va aller, c'est la question. Hein, jusqu'où peut-on emprunter ? Je pense que c'est une vraie question. J'ai l'impression aussi qu'en France, il y a une séparation entre l'État et le contribuable. Quand on parle de l'État, on parle pas toujours de ce que ça va, les répercussions que ça va avoir sur le contribuable. Alors qu'en Australie, on parle du taxpayer's money constamment. Donc quand on emprunte, on réfléchit et on en parle beaucoup.
C'est vrai ça, Suzanne, vu avec vos yeux d'Américaine travaillant pour un journal canadien en France, finalement le contribuable n'a pas tellement son mot à dire ?
Oui, je crois que c'est tout à fait clair. Je crois que la France est un peu l'exception dans ces jours de même de parler de quelque chose comme une politique industrielle, par exemple. Alors cette idée d'avoir une politique conçu et exécuté de gouvernement central, bon, au Canada, ce sera impensable. Et je crois aussi que c'est la tendance partout en Europe et surtout aux États-Unis. Mais ici en France, on ne pose pas des questions sur cette idée, on pose des questions sur bon, où est-ce qu'on va dépenser ces investissements, les grandes lignes des investissements. Mais l'idée d'avoir une politique créée par le gouvernement central, ça me semble que les Français ne posent pas des questions surtout.
Peut-être parce que toute l'histoire de France a été faite là-dessus.
C'est ça, oui, oui.
Et peut-être aussi parce que la plume du président, celui qui a lancé cette idée de grand emprunt, c'est l'ancien commissaire au plan.
Peut-être ça aussi.
Mais oui. Justement, cette idée qui a été avancée dans de très nombreuses interventions par Nicolas Sarkozy, qu'il y a dépenses et dépenses, celles qui coûtent de l'argent et celles qui finiront par en rapporter, l'investissement. Il n'y a pas qu'en France qu'on se fait ce genre de réflexion, Emmanuel Crane.
Non, non, bien sûr. Là, je vous disais que l'Australie, elle, n'avait pas de dette en 2005. Cependant, là, il y a eu un emprunt aussi de fait, pareil. Hein, pas de la même proportion, mais quand même. Donc ça, on le comprend tout à fait. C'est vrai, d'un autre côté, on peut se réjouir de à quoi va servir cet emprunt. La recherche en a besoin ici, l'université grandement aussi. Donc tout ça, c'est en effet un investissement et on espère que ça va payer plus tard. Mais c'est pas la première fois que ça se fait. Est-ce qu'il y a aussi derrière un suivi à quand on peut déterminer si ça aura été une bonne chose ou pas?
Suzanne Sachs, à l'origine, c'est les Français qui devaient contribuer à cet emprunt et donc par un vote, en quelque sorte, soutenir la politique de relance du gouvernement. Puis à l'arrivée, ce sont simplement les banques et les institutions financières qui vont contribuer.
Oui, je crois qu'on peut regarder ça. Bon, c'est plus efficace, au moins selon le président, de faire comme ça, et moins cher, parce qu'il a dit que ce sera plus cher de demander des Français. Mais il faut, je crois, aussi penser que nous sommes à mi-mandat de M. Sarkozy. Alors, il est un peu pressé. Et comme ça, bon, on n'a pas tous les problèmes et les irritations de consulter et demander des citoyens.
Enfin, 35 milliards, c'est peut-être moins que ce que voulaient certains. Ça va injecter beaucoup d'argent dans l'économie. Donc, c'est aussi une manière de faire tourner la machine.
Absolument. Mais à ce moment-là, quand on investit, on veut un retour. Alors, quand est-ce qu'il y aura un retour?
Alors, justement, je vous pose la question. Le retour sur l'investissement dans l'enseignement oui. supérieur, ça vient quand?
Ah ben c'est une bonne question. Je pense que c'est un investissement à long terme. J'ai l'impression que le président Sarkozy veut vraiment reprendre les choses au fond, mais c'est une lourde machine et c'est pas évident de faire changer les choses en France.
Suzanne Sachs, quand Nicolas Sarkozy s'est présenté à la présidentielle, il était présenté comme Sarkozy l'Américain. Ça s'est beaucoup écrit aussi dans la presse américaine et on retrouve un colbertiste.
Absolument, oui. C'est une. Je ne suis pas sûre s'il était assez Sarko l'Américain comme il était présenté, parce qu'il était vraiment un protecteur, l'idée de protection des industries, des secteurs français. Mais je crois que, oui, c'est tout à fait différent qu'un style américain, nord-américain, l'idée de décider tout. Et maintenant, je crois qu'il a retrouvé peut-être ses vraies couleurs, si on peut dire ça en français.
Merci Suzanne Sachs, correspondante à Paris du quotidien canadien Globe and Mail. Merci également à Emmanuel Crane, correspondante à Paris de la radio australienne SBS Radio. Et c'est la fin de cette édition de Kiosque International. L'émission a été préparée par Claudine Larcher et réalisée par Vanessa Rovansky. À la technique, il y avait Thomas Ferrière. Dans quelques instants, un nouveau journal sur RFI.